il n'y a pas de parole émise, c'est juste du son. Donc on était vraiment des centaines d'étudiants qui étaient au collège à manifester contre le régime avec la chanson de Don Quichotte.
C'est drôle, ça.
Mais ça rentre
assez mais il n'y avait pas de parole.
Ça rentre dans la vocation de Don Quichotte qui est de renverser les moulins. Les moulins, ça représente les institutions.
Tout à fait.
Et à l'époque de Cervantes, les moulins venaient d'être inventés. C'était du point de vue technologique, les moulins à vent venaient juste d'être mis au point. Et le moulin à vent a des caractéristiques qui signalent le fonctionnement des institutions techniques, politiques, religieuses. Le moulin, c'est une espèce de machine qui tourne toujours dans le même sens. Même si le vent change, il pivote, mais il capte toujours le vent et ses hélices tournent toujours dans un sens. Les institutions ne bougent pas, ne changent pas, et donc Quichotte, il affronte en Espagne à l'époque, qui peut-il affronter si ce n'est les institutions religieuses, tout ce qui reste figé et qui prétend avoir le pouvoir. Son secret, c'est le codage hébraïque et c'est son action messianique, son véritable secret. Mais nos puissances intellectuelles officielles restent très réticentes quand l'enseignement officiel considère que c'est un roman génial, mais rien de plus. On en reste toujours au sens littéral. Et l'histoire du sens littéral, elle est reprise le phénomène de lecture littérale est repris dans un chapitre de Don Quichotte où il se heurte à quelqu'un qui ne veut que le sens littéral. C'est l'épisode de le plat à barbe. La séance dans Don Quichotte, elle apparaît très clairement, c'est le personnage de Sanson Carrasco. C'est le bachelier, l'ami du curé. Et l'ami du barbier, et le troisième censeur qui va intervenir pour lessiver les livres, c'est Sanson Carrasco, qui est le plus méchant des trois. Le curé, il sauve quelques livres quand même, le barbier, il dit oui, il y a des livres quand même. Et le barbier et le curé essaient d'aider Don Quichotte. Ils disent oui, il faut faire quelque chose. Ils font emmurer sa bibliothèque, ça veut dire qu'ils préservent les livres, mais ils les cachent. Le Sanson Carrasco, qui est l'étudiant, le bachelier, qui a fait des études, ça, qui sait tout sur tout, il a toujours des réponses à tout, lui, il prétend guérir Don Quichotte en l'affrontant. Et il va lui-même se déguiser en chevalier. Et Sanson Carrasco se déguise en chevalier du miroir, et ensuite il revient sous la forme du chevalier le chevalier de la lune. Il se déguise en chevalier pour affronter Don Quichotte et pour le défaire et pour le ramener à la maison et pour lui imposer une défaite. Les deux autres personnages ne cherchent pas à le vaincre. Ils lui disent oh, vous êtes fou, Don Quichotte, tout ça, ça va. Sanson Carrasco, lui, il triche. Parce que Don Quichotte, lui, il se fait adouber chevalier, même si c'est par des prostituées ou par un aubergiste, peu importe. Et là, sa démarche intellectuelle honnête, il ne veut rien faire tant qu'il n'est pas chevalier. Donc après, il est chevalier, il mène sa vie. Sanson Carrasco, lui, il dit, moi j'y vais, je m'habille en chevalier, il ne se fait pas adouber. Il se met un faux nez d'ailleurs sur le visage, un faux nez, une armure avec le dessin de la lune, et avec ça, il prétend affronter Don Quichotte. Or Don Quichotte le dit au début, lui-même ne peut pas affronter des gens qui ne sont pas des chevaliers. Donc il affronte un imposteur, un menteur. Et Sanson Carrasco, qui représente le savoir officiel, prétend défaire Don Quichotte et ruiner son projet, en trichant, en se masquant. Et c'est la démarche scientifique. La science procède toujours par des théories, plus ou moins justes, le plus souvent provisoires, et quand elle n'est plus valable, il passe à une autre théorie, plus ou moins juste, plus ou moins provisoire. La science n'est jamais... Elle ne connaît pas son être, la science. Elle ne sait pas qui elle est. Elle se masque. Elle nous ment en plus tout le temps. Une découverte qui n'en est pas une. Ils ont inventé le vaccin contre le sida. Il n'y a pas de vaccin. Tout ça, c'est que du pipeau. Et ils sont dans le mensonge. C'est du Sanson Carrasco à l'état pur. Alors que Don Quichotte, il nous dit, je sais qui je suis. Lui, il est unitaire. Et le chevalier des miroirs, Sanson Carrasco, il a sur son armure des petits miroirs. Mmh. Et chaque petit miroir représente une science qui reflète une parcelle de vérité, mais il n'y a pas de vision globale, synthétique. Donc il représente bien la science. Il s'appelle, c'est vrai, il s'appelle Samson Carrasco, qui veut dire Cara de Asco. Il a une sale tête.
Oui, mais justement, ce personnage-là...
Il est moche, comme, il est moche comme un pont.
Le chevalier, il est présenté comme étant le doublon de Don Quichotte, c'est-à-dire c'est le fruit de cette dilution.
Non, c'est une... Samson Carrasco, il est hideux comme personnage, mais il ressemble tout à fait. C'est la caricature de la science, mais qui à l'époque de Cervantes n'existe pas encore.
Oui.
Donc Cervantes a une espèce de prévision que plus tard il existera un ennemi de Don Quichotte qu'il devra affronter. Mm. Et cet ennemi, c'est une pensée qui n'est pas comme la sienne. Don Quichotte, il a des visions, il a une vision synthétique, globale, et alors que Samson Carrasco, il est analytique. C'est le personnage de Cardenio, si vous connaissez Don Quichotte. Quand Don Quichotte est dans la Sierra Morena, il rencontre un personnage à demi. Et ce personnage, on peut l'identifier très clairement comme étant Cardenio.
Ouais.
Et Cardenio, c'est Mansour al-Hanaj, dont il a lu le texte, c'est sûr. Il a lu les textes de Mansour al-Hanaj pendant qu'il était en Algérie, prisonnier. C'est ça.
Mais
il l'a lu dans le texte en arabe.
La génération des années 80 a été marquée par Don Quichotte.
Ça, c'est magnifique.
Y compris moi.
C'est magnifique.
De 1980 jusqu'à 1990, avec l'apparition du terrorisme, nous, on est imbibés à la culture de Don Quichotte.
C'est
moi,
super.
Je peux vous réciter épisode par épisode de Don Quichotte, de A à Z. Bon, après, ils nous l'ont présenté comme un sot, et même malgré mon âge, sans doute, je me suis posé la question, pourquoi il est idiot à ce point? Et finalement, quand on réfléchit, il n'est pas aussi idiot que ça.
Il est
faire une autre lecture.
Il est visionnaire.
Oui, voilà.
Et puis, il voit ce que nous ne voyons pas. Nous, on voit des moulins, lui, il voit autre chose.
Exactement.
Dans les moulins. Et ça correspond à un verset du prophète Ésaïe, dans la Torah, qui dit « Je vois ce que vous ne voyez pas ». C'est exactement sa phrase. Don Quichotte, il fonctionne comme ça. « Je vois ce que vous ne voyez pas. Dans les moulins, je vois autre chose. » Et quand il voit un personnage sur un âne, il identifie tout de suite toute sa façon de penser. Il sait immédiatement qui est qui. Mais tout ça est codé, masqué sous des critères symboliques. Frédéric va nous lire un passage de Don Quichotte, intéressant. C'est le passage presque tout à la fin du livre, quand Don Quichotte revient chez lui, il se retrouve avec Sancho Panza à l'approche du village. Et c'est une histoire de lapin.
Oui, c'est correct.
Et comme on est au lapin agile, on s'est dit qu'on va montrer que le lapin agile était bien l'endroit où il fallait parler de Don Quichotte, parce que dans Don Quichotte, il y a un lapin, un lièvre, et que ce lièvre a toute une histoire.
Alors on revient un petit peu en arrière, mais d'abord, c'est l'avant-dernier chapitre du deuxième tome de Don Quichotte, et c'est le dernier événement avant la rentrée chez lui, où il va mourir, où ça va s'arrêter, bon, on respecte cette circonstance. Et on est au 400e anniversaire de la mort de Cervantes. Donc on va un petit retour en arrière avant qu'il rentre chez lui. Et Don Quichotte, on revient là, une boucle en arrière comme on fait aujourd'hui. Et voilà donc le texte littéral. C'est chapitre donc 53, 54 en tout, peut-être comme les parachats de la Torah, qui sont dites au sabbat. Alors, voilà, Don Quichotte, chapitre 53, des préceptes sinistres qui frappèrent Don Quichotte à l'entrée de son village, ainsi que d'autres événements qui décorent et rehaussent cette grande histoire. À l'entrée du pays, suivant ce que rapporte Sidamet, Don Quichotte vit sur les airs deux petits garçons qui se querellaient. Et l'un d'eux dit à l'autre, « Tu as beau faire, Perequillo, tu ne la reverras plus, ni de ta vie, ni de tes jours. » Don Quichotte entendit ce propos. « Ami, dit-il à Sancho, prends-tu garde à ce que dit ce petit garçon? Tu ne le reverras plus, ni de ta vie, ni de tes jours. »« Eh bien, répondit Sancho, qu'importe que ce petit garçon ait dit cela. Comment, reprit Don Quichotte, ne vois-tu pas qu'en appliquant cette parole à ma situation, cela signifie que je ne reverrai plus Dulcinée ? Sancho voulait répliquer, mais il en fut empêché par la vue d'un lièvre qui venait en fuyant à travers la campagne, poursuivi par une meute de lévriers. La pauvre bête, tout épouvantée, vint se réfugier et se blottir sous les pieds du grison. Sancho prit le lièvre à la main et le présenta à Don Quichotte, qui ne cessait de répéter « Malum signum, malum signum !» Un lièvre fuit, des lévriers le poursuivent. Sans effet, Dulcinée ne paraîtra plus. « Vous êtes vraiment étrange, » dit Sancho. « Supposons que ce lièvre soit Dulcinée du Toboso et ses lévriers qui le poursuivent, les enchanteurs malandrins qui l'ont changé en paysanne. Elle fuit, je l'attrape et je la remets au pouvoir de votre grâce qui la tient dans ses bras et la caresse à son aise. Quel mauvais signe est-ce là ? Et quel mauvais présage peut-on tirer d'ici ?» Les deux petits querelleurs s'approchèrent pour voir le lièvre et Sancho leur demande pourquoi ils se disputaient. Ils répondirent que celui qui avait dit « tu ne le reverras plus de ta vie » avait pris à l'autre une petite cage à grillons qu'il pensait bien ne jamais lui rendre. Sancho tira de sa poche une pièce de 6 blancs et la donna au petit garçon pour sa cage qu'il mit dans les mains de Don Quichotte en disant « allons, seigneur, voilà ces mauvais présages rompus et détruits. Et ils n'ont pas plus de rapport avec nos affaires, ce que j'imagine, tout sot que je suis, avec les nuages de l'an passé. Si j'ai bonne mémoire, j'ai ouï dire au curé de notre village que ce n'est pas d'une personne chrétienne et éclairée de faire attention à ses enfantillages. Et votre grâce m'a dit la même chose ces jours passés en me faisant comprendre que tous ces chrétiens qui regardent aux présages ne sont que des imbéciles. Et il ne faut pas insister là-dessus, passons outre et entrons dans le pays. »
C'est un passage très intéressant.
Et après, c'est la mort de Don
Quichotte. C'est un passage très intéressant parce que c'est Don Quichotte qui entend en cours de route, Sancho entend en cours de route deux petits garçons qui se disputent et il prend pour lui-même les paroles qu'il vient d'entendre. Il dit que le lapin est poursuivi, c'est un signe pour lui, Dulcinée, c'est fini, il n'arrivera plus à l'attraper. Donc il fait une lecture du signe. Le signe, ce n'est pas juste un événement, c'est aussi une parole qui est dite. Il entend une parole dite, il se l'applique à son propre problème, il se dit, ça y est, c'est un signe, Dulcinée est fichu, parce que c'est le lapin en question qui m'apporte la confirmation de ma pensée. C'est l'extérieur, le dehors, qui confirme le dedans. Et c'est une technique de lecture qu'utilisent les kabbalistes, que de toujours, pour savoir ce qu'il faut faire, ils interrogent le réel à l'extérieur. Et moi, par exemple, je me demandais jusqu'à hier soir encore, est-ce que je dois venir à Paris au Lapin Agile alors que j'habite en Normandie ? Est-ce qu'il faut le faire ? Est-ce que je dois venir ? C'était la préoccupation. C'est normal, on se pose la question. Quoi. C'est pas juste, oui, j'y vais, puis voilà. Est-ce que c'est nécessaire ? Les gens me disent oui, mais l'opinion des gens, c'est une chose. Moi, je veux savoir l'opinion de l'invisible, ni mon envie qui est réelle de venir. Et qu'est-ce que l'invisible vient de dire ? Eh bien, j'ai eu un coup de téléphone, je décroche, une personne qui ne se présente pas me dit, bon, et que c'est pour vous confirmer le rendez-vous que vous avez demain, je vous attends. C'est qui ? Et la personne a raccroché, puis c'était visiblement trompé de numéro. Ça n'avait rien à voir. Mais je prends pour moi ce que cette personne m'a dit dans son erreur. C'est comme Don Quichotte et le lapin. Cette personne me dit, je vous attends demain au rendez-vous comme prévu. Ben d'accord, ben je ne peux plus dire non, je ne viens pas ou hésiter. D'ailleurs, je n'aurais pas hésité, mais d'avoir la confirmation par un signe, ça vous renforce dans ce que vous devez faire. Et Don Quichotte, là, il prend ce lièvre pour lui. Mais il a à côté de lui, Sancho, à la fin du deuxième, donc pratiquement à la fin de l'aventure, Sancho, à la fin, il n'est plus le pauvre paysan inculte, ignorant et bête qu'il était au début. Il a vécu toute son aventure avec Don Quichotte, et il s'est en quelque sorte quichotisé. Il a quichotisé sa pensée, il ne sait pas lire ni écrire, mais c'est peut-être justement parce qu'il ne sait ni lire ni écrire que son esprit est totalement ouvert. Il est surtout ouvert à la parole et à la leçon de son maître. Donc il a absolument absorbé tout ce que son maître lui a dit. Et à son tour, il fait une lecture du signe. Au point qu'à la fin, il corrige la lecture du signe de son maître. Et il reproche à son maître Don Quichotte d'être pessimiste et de considérer qu'il n'a pas regardé le signe en entier. Parce que Sancho, il va prendre le lièvre et va le lui donner en personne. Donc, le lièvre n'est pas en perdition, en fuite, c'est le contraire. Sancho l'attrape, si c'est Dulcinée, il l'attrape, et ce lièvre qui représente Dulcinée finit dans les bras de Don Quichotte. C'est donc un paysage sublime que Dulcinée a absolument rejoint Don Quichotte et qu'il la tient dans ses bras. Et qu'ainsi, l'histoire peut se terminer parce que la rencontre se fait entre la connaissance et celui qui l'a portée jusqu'au bout. Et cette lecture du signe, c'est Sancho qui l'a fait. Ça n'est plus Don Quichotte. Et Sancho, c'est l'acolyte, l'accompagnateur du maître, c'est-à-dire que c'est le disciple qui a compris la leçon et qui va assumer la suite. Et dans ce sens, nous sommes tous plus ou moins des Sancho Panza par rapport à la connaissance. C'est en tout cas comme ça que moi je me présente par rapport à Dominique Aubier qui était le maître et qui a découvert les choses. Moi, je suis juste celui qui essaie de me Sancho en moins gros, vraiment, je ne suis pas...
Dominique, dans cette histoire, c'est très intéressant dans cet épisode, c'est qu'en fait, on a l'impression que Don Quichotte teste son disciple.
C'est possible.
Et il lui dit, voilà, je vais incarner le nom. En fait, il est désenchanté lui-même par rapport à ce lièvre. Mais quelque part, c'est comme un test, il attend la réaction de Sancho. Et la réaction est bien initiatique et elle est bien incarnée dans Sancho. C'est que Don Quichotte évacue le nom pour faire apparaître en deuxième temps, en bipop, justement ce oui.
Oui.
Dominique Aubier nous a expliqué que le nom apparaît toujours au départ pour faire apparaître ensuite, quand il y a un grand nom, il y a un oui magistral qui va surgir. Et c'est bien ce oui magistral qui apparaît dans la bouche de Sancho ici.
C'est la réponse inversée, corrigée.
Oui.
Et c'est la réussite de Sancho Panza aussi dans le deuxième temps, c'est la preuve qu'il a pleinement réussi.
Après, il y a une question métaphysique qui pourrait être posée à cet endroit. Oui. Est-ce que le verbe étant créateur, bien sûr, Bereshit bara Elohim, tout au commencement était le verbe, et que chaque fois que l'on utilise le verbe pour parler d'une chose, la question pourrait se poser de la manière suivante. Est-ce que l'on peut, dans le cadre d'une interprétation, lorsque l'on va commencer à interpréter un signe, on va forcément avoir recours au verbe. On va donc fixer un événement par le verbe et on va le circonscrire avec une interprétation. Est-ce qu'il est possible qu'on puisse, surenchérir une interprétation, lui donner une autre directive pour lui donner une issue plus favorable ?
Oui, oui, je comprends le problème. Ça rejoint ce que disaient les talmudistes à propos du rêve, que le rêve se réalise en fonction de l'interprétation qu'on lui donne. C'est une thèse qui a été reprise par la psychanalyse de Freud, mais en réalité c'était déjà très connu par les kabbalistes et par les talmudistes. Est-ce que l'interprétation modifie le sens du signe qu'on a vu ? C'est un des dangers dans la connaissance que de pratiquer la lecture des signes. Et ça m'est arrivé moi-même au début, quand j'ai commencé à entrer dans ce système de pensée, c'est qu'on essaie toujours d'arranger la lecture des signes selon nos propres désirs. Et c'est un des travers qu'on a au début quand on commence à le pratiquer, c'est d'avoir des désirs, de les plaquer sur les signes qu'on voit effectivement, et que les signes qu'on voit sont interprétés de telle sorte que nos désirs se prennent la priorité. Et finalement, on peut se cogner le nez. Ce qu'il faut faire quand on voit le signe, c'est rester très objectif par rapport à la réalité telle qu'elle se présente. C'est ce coup de téléphone que j'ai reçu hier, et c'était un signe clair. Les paroles dites sont claires, c'est « je vous attends, on a rendez-vous, demain, c'est aujourd'hui, moi j'ai bien ». C'est pas « est-ce que, oui, j'ai interprété ». Il n'y a rien à interpréter.
C'est
« j'écoute, j'obéis, je fais ». Ensuite, il ne faut pas projeter sur le signe nos désirs, notre psyché en quelque sorte. Il faut rester froid, lucide, objectif, et dans la connaissance telle que le fait Don Quichotte, c'est un homme très réaliste finalement, il a les pieds sur terre, il voit les choses, il interprète, et dans la connaissance, dans la Kabbale hébraïque, les kabbalistes sont tous des gens très terre à terre. Ils ne prennent pas les vessies pour des lanternes, c'est un signe. Une bouteille vide vous indique un signe. Une bouteille pleine vous en indique un autre. Et si elle est vide, elle n'est pas pleine. Et on ne peut pas l'interpréter à l'envers ou triturer pour faire en sorte que ça m'arrange. est-ce que je dois aller à tel endroit, tel moment, participer à un séminaire à tel moment. Il y a quelque temps, j'étais invité à Toulouse pour participer à un colloque. C'était magnifique, c'est l'université de Toulouse qui m'a invité. On m'offrait le voyage en train, le séjour pendant 3 jours à un hôtel de luxe. Le repas était payé avec un dîner de gala, ça me semblait même invraisemblable, on n'avait pas tant de choses. C'est même un peu excessif. Mais j'ai eu des signes qui m'ont dit « n'y va pas ». Alors que rationnellement, j'aurais dû y aller. Mais fais quand même ton truc et n'y va pas. Au dernier moment, tu n'iras pas. Je me suis dit « comment je ne vais pas y aller alors que c'est des universitaires, ils veulent m'entendre, ils veulent me rencontrer. C'est quelque chose à faire, c'est dommage, je ne peux pas rater une occasion pareille. » Oui, mais j'ai des signes que je pourrais raconter comme si c'était dans les noms des personnes. C'est l'organisme qui organisait le colloque s'appelait l'Institut des langues appliquées ou un truc comme ça, et ça s'appelait IRPAL. IRPALA ne va pas là. Donc, moi j'étais sidéré par le mot de l'organisme qui m'invitait. Et qu'on m'offre le billet d'avion, de train, l'hôtel 4 étoiles, le repas de gala de luxe, tout ça, je m'en fiche, c'est pas ça qui m'intéresse. Oui, vous rencontrerez le professeur agrégé de ci, de ça. Je m'en fous. J'ai le signe qui me dit qu'il n'est pas là. Donc j'envisage de ne pas y aller. Mais jusqu'au dernier moment, j'ai hésité. Peut-être j'irai quand même. C'était le 9 mars. Eh bien, pour m'empêcher d'y aller, il y a eu la grève des trains. J'ai pas pu y aller. J'étais bloqué. D'ailleurs, quand j'ai appris qu'il y a eu la grève des trains, 3 jours avant, j'ai pensé, ben, c'est plus la peine, là. C'est plus un signe, c'est un interdit formel, tu n'iras pas. Mais comme je suis quelqu'un d'un peu transtornable, je me suis dit, ben, j'irai en voiture. Puis là, j'ai pensé, non, quand même, il ne faut pas exagérer. Il y a 15 ans ou 20 ans, j'y serais allé en voiture. Et la voiture, j'aurais eu un peu crevé, c'est sûr. Après, je me serais dit, je prends le vélo. Mais quand même. Non, quand on a des signes, oui. Quand on a des signes comme ça, ben, on n'interprète pas indéfiniment, on se tient à ce qui est dit. J'avais parlé tout à l'heure du vin dans Don Quichotte. On s'était arrêté sur le chapitre du vin. Don Quichotte qui ouvre les outres de vin, la connaissance se répand. Ça, c'est l'action de Don Quichotte. Dans le deuxième tome, ça c'était au chapitre 35 du volume 1, dans le deuxième tome, il y a un autre chapitre avec le vin, mais cette fois c'est Sancho Panza. Et comme on le voit dans ce que tu viens de lire, Sancho est beaucoup plus actif dans le deuxième tome parce qu'il a ingurgité et réceptionné toute la leçon de son maître. Et dans le deuxième tome, qui a été écrit 10 ans après le premier, parce qu'entre les deux tomes, il y a un écrivain espagnol qui a écrit un faux Don Quichotte. Un imposteur qui a fait un faux roman qui s'intitulait Don Quichotte, c'était probablement Lope de Vega qui l'a écrit. Et qui a compris ce que Cervantes a fait et qu'il a fait un faux pour l'imiter, pour se moquer de lui. Et Cervantes, en réaction, il écrit le deuxième tome pour répondre à Lope de Vega. Et dans le deuxième tome, Sancho, qui a bien compris la leçon de son maître, il va montrer que lui, il a compris et il va lui le communiquer. Et il va reprendre la leçon du vin à son compte. Alors c'est le chapitre qui s'appelle le colloque, le colloquio avec. C'est le colloque du chevalier du bosquet. Don Quichotte rencontre un autre chevalier qui est accompagné lui aussi d'un écuyer. Et là les couples se séparent. Il y a d'un côté les deux chevaliers, Don Quichotte et le chevalier du bosquet qui vont à part et qui vont discuter entre eux. Et le Sancho et le chevalier, l'écuyer vont eux aussi à part sous des arbres et ils vont boire du vin. Et le chapitre s'appelle le colloque. Alors colloquio en hébreu ça vous donne col c'est la voix et quio c'est vomir. Donc Sancho il va vomir la voix, il va vomir son enseignement, mais il va pas vomir au sens vomir. Il va rendre. Il va rendre tout ce qu'il a appris. Et c'est pour ça que ça s'appelle le colloquio. Colloquio. Ils vont commencer à boire du vin de Ciudad Real. Sancho, c'est un homme du peuple, donc il a un langage très particulier. Et tout à coup, il s'éclame, « Ah putain, qu'est-ce qu'il est bon ce vin !» Et on voit sortir le mot « putain » sept fois de suite sur une seule page d'écriture. Normalement, à un écrivain, un éditeur lui dirait « Bon, tu peux le mettre une fois, ça passe, mais pas sept fois, c'est trop. » Ou alors, il faut dire à Cervantes « Écoutez, vous êtes peut-être le meilleur écrivain espagnol, mais c'est pas possible, vous êtes le plus mauvais avant. » Parce que répéter sept fois le même mot, ou vous êtes insensé, ou alors il y a un sens dans le mot. Et dans le texte espagnol, le mot « puta » dans le même paragraphe revient sept fois avec une insistance mais lourde, au point que dans les traductions, ils ont été enlevés. Parce que bon, la langue française estime que, ma foi, on ne peut pas dire ce mot. Alors, il dit « puta, puta, puta ». Et tout à coup, il dit une expression plus complète, il dit « fils de putain ». Tout à coup, c'est le plus putain, c'est « fils de putain ». Et là, il va parler du vin. Et il dit « ah, fils de putain, qu'est-ce qu'il est bon ce vin, et comme il est catholique ». Alors, l'attention est attirée sur le mot « putain » qu'on a noté, et on va voir l'expression qu'il utilise, l'expression hyper vulgaire, il est fils de putain, c'est horrible. Fils de putain. Mais il ne dit pas hijo de putain. Il enlève le ro de hijo, fils de, et il y a juste le hi de putain. Et bien vous le lisez en hébreu, hi de, ça vous fait reida. C'est ah, c'est super, c'est merveilleux, reida. Putain, c'est patoua. Patoua, c'est. Comme c'est merveilleux, comme c'est évident même. Pas tout, hein, c'est l'évidence. Comme c'est clair. Il n'est pas tout. Hein. Comme c'est clair, comme c'est évident. Et il continue. Velaco. Velaco, c'est un mot qui veut dire canaille, gredin. Et entendu en hébreu, Velaco, ça te donne ce qui veille à l'intérieur, ce qui est à l'intérieur. Donc, il n'est puta Velaco. Entendu en hébreu avec l'oreille un petit peu ouverte, ça vous donne c'est super, comme tout est évident ce qui est là-dedans. Mais dans quoi? Mais dans le vin qu'il est en train de boire. Et il continue, et comme c'est bien catholique, et comment le vin peut être catholique alors qu'il vient de nous sortir une phrase en hébreu? Et là, c'est une espèce d'antiphrase où il nous dit, oui, c'est catholique. Ben justement, ça n'est pas du tout catholique, ton histoire. C'est de l'hébreu que je vous sers. C'est vraiment une espèce de tartine. Reste une tarte à la crème qu'il nous envoie pour nous dire, ce que je vous raconte, c'est pas du catholique du tout, c'est pas du chrétien du tout, c'est de l'hébreu, il faut le lire en hébreu. Comme ce qui est là-dedans est évident et clair. Ah bon, qu'est-ce qui est clair dans le vin? Et il continue, « Ahora dirai. Et maintenant, je vous le dirai. » Ça sonne espagnol. Ahora, maintenant, dirait, vers dire au futur. Ahora, dirait. Et on regarde comment Cervantes écrit le verbe ahora. Le mot ahora, normalement, ça s'écrit A-H-O-R-A, ahora. À cette heure, je vous le dirai, maintenant, je vais vous expliquer. Mais il écrit le mot A-O-R-A. Il n'y a pas de H dedans. Alors ça vous fait ahora. Et ahora, en hébreu, c'est la lumière. Il va donc nous dire, je vais vous expliquer la lumière qu'il y a dans ce vin. Et vous allez voir clair. Donc il boit le vin. Et son compère reprend sa phrase et lui dit, ah oui, ah, fils de putain, qu'est-ce qu'il est bon ton vin. Comme s'il avait compris de quoi il parlait. Et que visiblement, ils se parlent la même langue, dans le même code. Et c'est pour ça qu'ils s'entendent très bien tous les deux. Ils sont branchés sur le même concept, la même langue et puis le même codage. Et comment est-ce qu'il va nous expliquer cette histoire du vin? Il va raconter à l'autre étudié une histoire bizarre. Il va lui dire « Oui, oui, je m'y connais bien en vin parce que j'ai des ancêtres qui étaient des experts dans le vin. » Et il raconte l'histoire de ses arrière-grands-parents, de ses aïeux, qui étaient des œnologues avertis, des spécialistes du vin de Ciudad Real, et ils racontent l'histoire qu'un jour, ils sont allés ensemble dans une cave, et dans cette cave, il y avait un énorme tonneau. Le tonneau représente l'unité, la structure unitaire, Ça, c'est le commentaire de Dominique Aubier que j'ajoute. Le tonneau. Et dans ce tonneau, il y avait du vin. Le vin, c'est la joie. Et ces deux ancêtres ont bu ce vin. Et l'un dit à l'autre, ce vin a le goût du fer. Et l'autre lui dit, moi, je trouve qu'il a le goût du cuir. Alors, on est devant l'énigme du vin qui a le goût du fer et du cuir. Et puis, les années passent. Et un jour, le tonneau est vide. Et les deux compères reviennent. Et qu'est-ce qu'ils découvrent dans le tonneau, au fond? Ils trouvent une clé en fer attachée à une bandelette de cuir. Donc l'un et l'autre avaient raison, ce vin avait le goût du fer et du cuir, parce qu'il y avait bien un objet de fer attaché à un objet de cuir tout au fond. Qu'est-ce que Sancho nous raconte avec cette histoire-là? Que Aura dirait, je vais te dire, la lumière du vin, le secret du vin, là il est dans la structure qu'est le tonneau, qui est l'unité structurale, qui est le cerveau en fait. Dans la Kabbale hébraïque, l'unité c'est le cerveau. Dans ce cerveau, il y a la loi qui fonctionne, et à l'intérieur, il y a une clé. Et quelle est la clé? La clé du vin. La clé, c'est l'objet même qui vous invite à trouver la clé symbolique du vin. Alors vous prenez les mots utilisés par Cervantes, les mots espagnols, c'est una clave de hierro. Bon, la clé, on sait ce que c'est ce qui vous ouvre la serrure, ça va vous donner le sens, et vous retrouvez le mot hierro, qu'on a déjà étudié tout au début, quand il était avec ses barres, les barres de fer dans le casque, et bien il reprend le même mot à cet endroit-là, et il faut refaire la même lecture que dans le premier chapitre. Hierro vous renvoie à ce poème écrit dont il manque chaque fois une voyelle, et vous avez de nouveau le mot hierro, dont la deuxième moitié c'est chalani. Ça veut dire que la clé du vin, c'est une clé en fer. Donc la clé du vin, c'est le hierro, c'est le vin de Jérusalem, c'est-à-dire la loi de Jérusalem. Et Jérusalem, qu'est-ce que c'est? C'est la ville où Jacob, avant que Jérusalem existe, c'est l'endroit où Jacob s'était reposé et a posé sa tête sur une pierre et où il a reçu toute la loi hébraïque. Donc la clé de la connaissance se situe à cet endroit-là, à Jérusalem. Et cette clé, elle est attachée à une bandelette de cuir. Cette bandelette de cuir, en espagnol, c'est un cordoban, parce que c'est la ville de Cordoue, où sont fabriqués les cuirs. Vous dites en espagnol un cordoban, tout le monde sait que c'est du cuir. Ben, c'est le mot hébreu, cordoban, c'est cord, la mesure, do, deux, c'est double, et ban, construit. Vous mettez ça dans un tonneau, le tonneau qui représente le cerveau. Et dans le tonneau, vous avez corps, une mesure, double avec gauche et droite, parce qu'il y a toujours gauche et droite dans une structure qui construit l'édifice gauche et droite entier, dans laquelle circulent l'énergie et les lois du vin, représentées par la clé du vin. Et ce vin, et c'est le vin de Jérusalem, au sens symbolique, c'est la loi de Jérusalem, et il est indiqué depuis le début du chapitre, parce qu'il était question du vin de Ciudad Real, ce qui est une ville espagnole dans la Mancha. Mais Ciudad Real, ça veut dire la ville royale. Il parle bien sûr de la ville réelle qui existe. Real, c'est réel. Mais si je remets tout ça dans le contexte hébraïque, la ville réelle mentionnée, ce n'est plus Ciudad Real, mais c'est bien Jérusalem qui est signalée sous l'appellation Ciudad Real. Donc le vin que Sancho nous fait partager, nous fait boire, c'est le vin de la loi qui se trouvait dans le tonneau contenant du vin de Jérusalem. Et ça prouve que Sancho a totalement compris la leçon de Don Quichotte, parce que c'est lui qui nous donne la leçon. Mais il la donne à travers une histoire, une allégorie qu'il fallait défaire symboliquement, ouvrir les mots, et tout ce chapitre que je vous explique là, ça a été expliqué dans un des livres de Dominique Aubier, Don Quichotte au prodigieux secours. Et on explique tout ça détail par détail. C'est pour ça que c'était important de boire un coup de vin. Parce que, en tant que Sancho, je vous donne en partage le vin que j'ai apporté. Un vin qui s'appelait Beaulieu, d'ailleurs. J'ai pris le vin Beaulieu parce que c'est Le premier nom dans Don Quichotte, c'est un autre lugar. Dans un lieu de la Mancha.
De la Mancha ou de la Manchilla?
De la Mancha.
De la Mancha.
Mancha. Et lugar, ça a été traduit en français par un village, un endroit. Mais en réalité, lugar, ça fait, il faut penser au concept hébraïque. Le lugar, le lieu dans les appellations, c'est un lieu de la pensée. Et c'est en hébreu, c'est le Ramakom. C'est l'endroit où la pensée divine se manifeste.
Et un secteur de temps.
En Israël, le lieu principal, c'est Jérusalem.
C'est
clair.
Ah bon, c'est l'autre. Elle est
mieux. Donc quand il parle de Luga,
elle est mieux.
C'est le concept du Ramakom.
C'est bon, il y a du Ramakom.
Moi, j'en prendrais bien.
Lequel? Tu veux le volume? Tiens,
là, c'est un petit peu le volume.
Parce que vous l'avez déjà pris, mais...
Je pense que je vais finir sur un épisode parce que Frédéric m'a prêté une petite statuette là de Don Quichotte que j'ai mis sur le mur. Et en marchant tout à l'heure, hein, j'ai fait
le home.
C'est le redoublement par rapport au casque qu'il met sur la tête au début. Au début, il se confectionne un casque, mais qui se casse lors d'un combat. Et après, quand il est avec Sancho, il veut se remettre quelque chose sur la tête et il aperçoit au loin un bonhomme monté sur un âne, mais il pense que c'est un cheval. Et cet homme porte sur la tête quelque chose de très brillant et Cervantes nous explique qu'en réalité c'est un barbier qui passe d'un village à l'autre et qui porte sur la tête un plat à barbe. Et Don Quichotte, pour lui ça n'est pas un barbier, pour lui c'est autre chose, et pour lui... Le casque qu'il a sur la tête, ce n'est pas un plat à barbe, c'est le haut de membrane, c'est-à-dire le casque d'un chevalier très important dont lui doit s'emparer absolument. Le barbier en question, c'est une allusion à, sans doute, un talmudiste qui passe d'un village à l'autre pour instruire les populations. Et il a sur sa tête toute la connaissance hébraïque, bien brillante. Et pour Don Quichotte, ça ne va pas du tout, ce n'est pas suffisant. Ce homme de membrane, c'est pour lui. Il ne peut pas rester entre les mains des traditionnalistes, il faut l'actualiser, c'est lui qui doit le porter. Il va le lui prendre, il va aller lui voler pratiquement. Et le barbier n'est pas content du tout. Et Don Quichotte se retrouve avec cet objet-là, qui est un plat à barbe. Et là, on remarque une chose étonnante, c'est que. Souvent il fait ça, Cervantes utilise différents mots pour désigner le même objet. Il l'a fait pour les poissons, abadero, bacalao, curadillo. Trois noms pour désigner un objet. Et alors il faut faire attention à l'objet parce qu'il nous le signale. Et là il va faire la même chose avec le plat à barbe. Ça s'appelle la vasilla de la chauffard, la bassine pour se raser. Mais il dit aussi, c'est El Almete. Almete, c'est le casque, l'armée, qui se met sur la tête. Et le même objet, il dit, c'est le Yelmo de Membrino. C'est le Homme de Membrane. Mais ça désigne toujours le même objet. Alors il faut prendre, comme pour les poissons, il faut prendre chaque fois les mots Almete, Yelmo de Membrino, Bassia de Achofar, et vous les écrivez, c'est bon, vous faites des fiches. Des fiches, comme je vous disais, les policiers le font, ils épinglent des trucs, des suspects, des noms, puis quel est le rapport entre les trois? Ben, vous transposez tout ça en hébreu, et vous avez le casque Al-Met, c'est Al-Emet. Al, c'est le système divin, c'est Dieu, et Emet, c'est la vérité en hébreu. Al-Met, c'est Emet à l'envers. C'est, si vous faites le kéritétib en hébreu, vous faites des techniques de lecture kabbalistique où vous inversez le mot avec, vous gardez les lettres et vous changez l'ordre des lettres. Et Al-Met devient Al-Emet, c'est-à-dire la vérité du système divin, sur la tête. Ensuite, il l'appelle Yelmo de Membrino, le homme de membrane. Là, vous avez I-Elmo, c'est I, c'est l'énergie, c'est le yon. Elle, c'est le système divin, mot, c'est dedans. L'énergie du système divin est dedans, et mais un brino, c'est des mots directs, ça vous donne le fils de ce peuple, mais impérément. La vérité est dedans, dans ce, portée par le fils de ce peuple. Et après, vous avez il utilise l'expression du sens littéral, c'est une bacilla de hachofar, une bassine pour se raser. Et bien là aussi, vous transposez ces livres, vous faites, ça vous fait B, Iaza. B, c'est la structure. Iaza, c'est le verbe sortir. Il faut sortir de l'ancienne structure. Et c'est toujours le projet de Don Quichotte, sortir de l'ancienne structure. Sortir de l'ancienne structure. Et le deuxième mot, c'est achofar, qui veut dire raser. Normalement, en espagnol, ça s'écrit avec un C, achofar. Mais Cervantes l'écrit avec un Z. Alors c'est azofar. Et az, c'est pas achofar. Et dans le mot achofar, vous avez l'expression chauffard, la trompette de Moïse. Donc c'est az plus chauffard. Chauffard me fait penser à Moïse automatiquement. Et le mot az en hébreu, c'est un mot qui veut dire c'est alors que, une espèce de locution comme ça, c'est alors que. Mais c'est le mot qui commence chaque fois les versets quand Moïse va faire quelque chose. C'est alors que l'action commence. Et le mot az signale chaque fois la présence d'un miracle qui va opérer. C'est une précision qui est donnée dans le Zohar, ça, que le mot az est signalétique d'une opération, d'un acte important. Donc, Cervantes nous dit que son héros, Basila, va sortir. Attention, az, le chauffard va sonner. Ça va faire du bruit. Et tout ça, c'est contenu dans les trois expressions qui désignent le haut du mandat. C'est la vérité va sortir, et elle va faire du bruit parce que le coup de chauffard sera prononcé. Après, ce qui est marrant, c'est que le barbier en question, il veut récupérer absolument sa bacille. 30 chapitres après, au chapitre 49, je crois, on retrouve le barbier, qu'on avait perdu de vue, on le retrouve à l'auberge, il retrouve Don Quichotte, et dès qu'il le voit, il exige le retour de son plat à barbe. Là, c'est l'image du judaïsme qui ne renonce absolument à rien, et ils ont bien raison, on ne renonce pas à tout ce qu'on sait, à tout ce qu'on a appris, et surtout pas au sens littéral des choses. Et le barbier dit à Don Quichotte, c'est une bacilla de hachofar. Et Don Quichotte lui répond, ceci n'est pas une bacilla de hachofar. Ceci est un plat à barbe, et l'autre vous dit, ceci n'est pas un plat à barbe. Donc ils ont une discussion qui n'en finit pas. Et 10 fois de suite, ils se disent l'un à l'autre, ceci est un plat, et l'autre dit, ceci n'est pas. C'est comme si je vous disais, ceci est un verre de vin, et vous me répondez, ceci n'est pas un verre de vin. Et puis on continue, ça ne s'arrête plus. Don Quichotte garde le plat à barbe et indemnise le barbier à qui il a pris. Mais c'est la lutte entre la lecture littérale, le plat à barbe est un plat à barbe, l'objet n'est que lui-même, et pour Don Quichotte, eh ben, le plat à barbe symbolise Almete, la vérité du système, il symbolise Yelmo, c'est le système de Dieu est à l'intérieur, il symbolise le fils du peuple qui l'apporte. Et ça symbolise aussi la nécessité de le porter, de le sortir à l'extérieur. Alors que pour l'autre, c'est juste un objet métallique qui sert à se raser. On en est là sur la lecture de Don Quichotte. Est-ce que c'est un plat à barbe ou est-ce que c'est autre chose? Alors on peut faire un colloque sur le plat à barbe. Et vous expliquer, voilà, un plat à barbe est fait avec du cuivre, etc. Tout ça. Et on peut faire un colloque sur le plat à barbe qui est elle a le même. Et le monde de l'ombre, hein, avec tout son sens symbolique. C'est les deux écoles qui se chevauchent, et malheureusement, on accorde beaucoup trop d'importance au sens littéral. On est tous subjugués, Don Quichotte, c'est merveilleux, c'est bien écrit et tout. Non, c'est écrit d'une façon très spéciale, et avec un message très clair, c'est de nous faire comprendre que la bacille, hein, la sortie messianique annoncée par Don Quichotte, va retentir à travers son action et son exigence. Bon, voilà.
Merci. 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 Merci pour
cette... On pourrait encore faire beaucoup de...
seconde présentation et... qui aura peut-être d'autres rebondissements.
Ah, j'avais prévu bien d'autres choses, mais bon, ce sera pour une autre fois, peut-être un autre rendez-vous au Lapin Agile. Ça finira bientôt par devenir le lieu de rendez-vous obligatoire des amis de Don Quichotte.